RCF.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus ici dans ce magazine de l'étonnement culturel. Que vous habitiez à Marseille, pas loin des côtes bretonnes, dans la campagne flamande, en Pologne, tout près de la frontière ukrainienne, dans la banlieue d'Athènes, ou au cœur de Berlin, de Lisbonne ou d'Helsinki, que vous parliez espagnol, anglais ou roumain, oui, soyez les bienvenus. Nous sommes l'Europe, plus de 350 millions de personnes se préparant à voter ces jours-ci pour élire leurs eurodéputés. Et on célèbre ça aujourd'hui dans Effervescence, une histoire commune faite de hauts et de bas, de rencontres et d'affrontements, de délibérations et de compromis, de rêves de paix et de prospérité. À l'heure où nous commémorons le débarquement américain de juin 1944, nous nous rappelons que l'Union européenne est née dans les décombres de la guerre, avec en tête et au bord des lèvres la promesse du « plus jamais ça ». Mais on connaît le proverbe, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et la guerre est là, à deux pas de nous. Est-ce à dire que tout cela est vain ? Sûrement pas. Fragile ? Évidemment, fragile et précieux. Aujourd'hui, dans Effervescence, nous célébrons ce qui nous lie. L'histoire, la culture, la démocratie, car oui, nous sommes l'Europe. Et ils sont trois Européens, ce matin, à nous raconter leur Europe et à partager avec nous leur coup de cœur de la semaine. Françoise Morel, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes la directrice des radios RCF de Bretagne, vous êtes à Vannes. Et dans cette émission, vous nous ferez voyager de la Bretagne au Maroc en passant par Berlin. Guillaume Goubert, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes l'ancien directeur de La Croix et chroniqueur Beaux-Arts dans la matinale RCF. On sait votre amour pour l'Italie et vous avez vu au cinéma Marcello Mio, hommage de Chiara Mastroianni à son père, signé du réalisateur Christophe Honoré. Et puis, vous étiez il y a quelques jours au concert d'Eric Clapton et vous nous raconterez l'histoire d'une de ses plus belles chansons. Éric Payet, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes le rédacteur en chef du Jour du Seigneur sur France Télévisions, toujours à l'affût des pépites du petit écran. Et le joyau cette semaine est à voir sur Apple TV, une série policière au doux nom de...
Sugar.
Et puis vous nous emmènerez au théâtre applaudir l'un de vos amis, le comédien Hervé Pierre, dans une pièce pleine de tendresse, Moment, pourquoi les méchants sont méchants. On a une pensée pour Nicolas Tauchet qui ne touche plus terre ces jours-ci, mais promis, on le récupère pour la prochaine émission. Voilà trois chroniqueurs, trois Européens prêts à partager leur attachement à la bannière aux 12 étoiles.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Variation pas très sérieuse sur l'ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen qui vient de fêter ses 200 ans. Une version qui nous vient des confins de l'Europe et signée d'une des stars des Balkans, Rambo Amadeus, le genre d'énergumène que l'on croit sur les plateaux de l'Eurovision. Rambo Amadeus vient du Monténégro, un pays qui patiente depuis 2008 dans l'antichambre de l'Union européenne. Et vu du Monténégro, vous l'avez entendu dans la chanson, l'Europe c'est la prospérité économique mais aussi la démocratie et la liberté. Aujourd'hui, dans Effervescence, on recherche qui incarne l'esprit européen et chacun des chroniqueurs est venu avec une œuvre qui raconte à sa façon la construction européenne. Alors, je ne sais pas si avec vous, Guillaume Goubert, il est déjà question de construction européenne, en tout cas, il est question de l'Europe.
Oui, tout à fait. En fait, il y a très longtemps, la première fois que je suis allé à Bruges, je suis allé dans l'église Notre-Dame, donc Bruges qui est en Belgique, l'actuelle Belgique, l'église Notre-Dame, une grande église gothique, et j'ai découvert qu'il y avait une statue de Michel-Ange dans l'église, ce qui m'a surpris. Et je me suis un petit peu renseigné. En fait, c'est la seule œuvre de Michel-Ange qui ait quitté son atelier pour aller hors d'Italie de son vivant. Il l'a vendue à deux marchands de Bruges, des marchands de textiles qui étaient venus acheter du tissu en Italie pour les vendre sur les foires des Flandres. Et donc, qui ont acheté cette statue qui est une Madone à l'enfant. C'est pas ma statue de Michel-Ange préférée, je dois dire, mais peu importe. Elle fait à peu près 1,20 m de haut. Et elle est toujours aujourd'hui dans cette église. Elle est protégée par une vitre depuis que il y a eu un attentat au Pic à Glace contre la Pietà qui est dans la basilique Saint-Pierre à Rome. C'est dans les années 70 de mémoire. Voilà. Et donc, ça m'avait frappé cette idée que voilà, déjà à cette époque-là, c'est-à-dire au tout début du XVIe siècle, il y avait déjà beaucoup d'échanges en Europe et que finalement cette statue incarnait trois des choses qui sont finalement à la base d'un esprit européen qui a trouvé une traduction aujourd'hui institutionnelle avec l'Union. Trois éléments importants qui sont le l'art, la religion et le commerce. Et que ça fait partie de notre identité européenne. Bon, le mot identité aujourd'hui est un peu piégeux, il faut bien le dire, mais la religion, non pas au sens de quelque chose qui nous définit par rapport à un autre qui serait différent, extérieur et un ennemi, mais au contraire comme quelque chose qui nous relie. C'est quand même l'étymologie de religion. La religion chrétienne nous relie entre Européens, nous a reliés, nous relie encore, je pense. L'art, il y a toujours eu beaucoup d'échanges artistiques dans cet espace, et particulièrement ces dernières décennies, bien sûr, mais ça a commencé il y a longtemps. Bernin, le grand architecte baroque italien, est venu se mettre au service de Louis XIV. Finalement, Louis XIV l'a un petit peu tenu à l'écart, il est reparti. Mais voilà, il y a toujours eu ces moments d'échanges artistiques. Et enfin, le commerce. Et je pense que la question du commerce se pose particulièrement en ce moment, parce que je crois que l'Europe a un peu trop cru dans les vertus pacificatrices du commerce, le fameux doux commerce, qui fait que c'était pas l'intérêt de Poutine d'envahir l'Ukraine, que c'était pas l'intérêt des Anglais de quitter l'Union européenne, etc. Et on voit que voilà, on a trop cru en cette dimension-là. Néanmoins, c'est quand même une dimension qui crée des liens très étroits et très intenses entre nos pays.
Voilà, et si vous voulez découvrir cette Madone de Michel-Ange, vous allez sur rcf.fr, sur la page de l'émission, on vous mettra la photo. Pour continuer à raconter l'Europe, on fait maintenant un grand bond dans l'histoire. On se dirige vers Berlin, où depuis sa construction en 1961, le mur a été à la fois source d'inspiration pour les musiciens et théâtre de concerts mythiques. Ainsi, en 1977, David Bowie fait de la frontière séparant la capitale allemande le décor d'une histoire d'amour avec Heroes, deux amants qui s'embrassent au pied du mur, comme si rien ne pouvait tomber, chante l'artiste. Pourtant, en juin 1987, sa chanson fait trembler l'édifice de béton. Avec Genesis et Eurythmics, il donne un concert à Berlin-Ouest, à quelques mètres du mur, pour célébrer le 750e anniversaire de la ville. De l'autre côté, plusieurs centaines de Berlinois de l'Est tentent d'écouter le concert de Bowie, malgré le déploiement d'un important dispositif de sécurité. Nous aussi, nous sommes l'Europe, invoquait déjà cette jeunesse. We'll be right back. Pillon Goubert.
Le refrain dit « Nous pouvons être des héros juste pour un jour ». Et dans une époque où on parle beaucoup de victimes, c'est bien que quelqu'un chante l'héroïsme.
Voilà. Et pour vous aussi, Françoise Morel, hein, la chute du mur de Berlin, c'est une pierre immense dans la construction européenne ?
Oui, tout à fait. Et moi, j'étais grande adolescente ou jeune adulte à ce moment-là. C'est vrai que ça m'a énormément marquée. Et il reste des traces, hein, bien sûr, de cette chute du mur de Berlin. Et je pense que ces traces, il faut vraiment qu'on les garde près de nous. C'est important.
Alors, vous avez choisi justement de nous parler de deux lieux où l'on peut encore voir des traces du mur de Berlin.
Exactement. Et on va d'abord partir, Stéphanie, pour Strasbourg, dans le quartier européen, sur la pelouse qui jouxte l'entrée principale du Palais des droits de l'homme. Sur la gauche, un panneau du mur de Berlin en quatre parties, offert par l'Allemagne dès 1989. Hein, autant vous dire que la date est symbolique. Alors, pour rappel, mais bon, vous l'avez déjà évoqué, le mur de Berlin était construit en une nuit du 12 au 13 août 1961, alors que l'Allemagne était divisée en deux pays, la RDA sous influence soviétique, la RFA sous régime capitaliste. Et puis pour éviter cette migration massive de ses habitants, la RDA construit ce mur qui divisera le pays et la ville en deux. Il tombe le 9 novembre 89 et en l'espace de deux ans, tous les régimes communistes d'Europe sont tombés, ce qui a ouvert la voie à l'adhésion de plusieurs pays à l'Europe de 95 à 2013. Alors revenons à Strasbourg. Ces panneaux sont visibles et la ville de Strasbourg a été choisie pour sa valeur emblématique, puisque on peut lire sur un morceau de ces fragments le mot Freiheit, qui veut dire liberté. On y voit aussi l'inscription « Le duo d'enfer a encore frappé ». Alors sur chacun de ces quatre petits pans qui forment ce panneau, la silhouette d'un personnage à l'œil bien rond, ils sont en fait la signature de Thierry Noir, installé à Berlin en 1982. Cet artiste français a été le premier à peindre sur le mur malgré l'interdiction à l'époque. Il exprimait ainsi à sa façon la tristesse qu'il ressentait face à la séparation des peuples. Direction aussi Bruxelles, puisqu'il y a aussi au Parlement européen, à l'entrée, des visiteurs qui conduisent à l'hémicycle deux sections authentiques du mur offertes par la ville de Berlin. Là aussi, pour symboliser la réunification, c'est important, ces différents morceaux qui sont répartis à Strasbourg et à Bruxelles, parce que je trouve qu'ils sont l'un des plus beaux symboles de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. La défense de la paix, la liberté, la démocratie, vous le disiez en introduction, Stéphanie, des droits de l'homme. Mais je crois que ces œuvres d'art nous disent aussi toute la fragilité d'une institution qu'il faut vraiment défendre, préserver, pour laquelle il faut se battre, encore plus et qui plus est aujourd'hui, à l'heure où les partisans du Xit menacent toutes ces libertés, toutes nos libertés, acquises parfois dans la souffrance, comme nous le dit et comme nous le disent ces morceaux du mur de Berlin.
Et on reste encore un peu au cœur de Berlin. En juillet 1990, Roger Waters, bassiste de Pink Floyd, électrise la ville de Berlin avec un spectacle grandiose lors duquel une reconstitution du mur d'une vingtaine de mètres de haut va s'effondrer devant le public. Il interprète les chansons de l'album The Wall aux côtés de stars de l'époque comme Cyndi Lauper.
We'll be right back.
Après ces heures graves qui ont cimenté l'Union européenne, un peu de légèreté, car oui, l'Europe ne se construit pas uniquement dans les drames. Éric Payet, au cœur du sentiment européen, pour vous, il y a l'expérience d'Erasmus. Plusieurs générations de jeunes Européens qui sont partis étudier dans d'autres pays d'Europe, un trimestre, une année, pour grandir à l'heure et au rythme de l'Union européenne.
Oui, et d'ailleurs, dans le débat actuel, on voit bien que quand il s'agit de débattre sur ce que l'Europe nous propose, il y a quelque chose comme qui fait l'unanimité, c'est ce programme Erasmus, qui est apparu à la fin des années 80, timidement.
1987.
Ouais, 1987, je crois, sous l'impulsion de François Mitterrand, qui a vraiment accompagné ce projet. Alors, il a fallu accorder les diplômes, il y a eu évidemment énormément de choses à harmoniser, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, pour un étudiant, c'est quasi la normalité, ouais, d'aller dans son cycle d'études, aller expérimenter non seulement l'expérience à l'étranger, mais surtout de rencontrer et de partager avec d'autres Européens. Et ça, c'est la richesse fondamentale d'Erasmus. Alors, il y a un film emblématique.
Voilà, vous avez revu le film L'Auberge espagnole de Cédric Lapiche. C'était en 2002.
C'est l'aventure de sept étudiants qui se retrouvent dans un appartement à Barcelone.
J'avais sans doute raté plein de trucs. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Any other questions?
Vous allez voir, le bâtiment est un peu austère, mais il y a une super ambiance.
Voilà, L'Auberge espagnole de Cédric Lapiche, c'est votre œuvre pour symboliser l'aventure européenne.
Ah oui, je trouve que d'abord, elle a eu un fort retentissement. Il y a eu 5 millions de personnes qui l'ont vue à travers l'Europe. Et c'est vrai que derrière, Erasmus a été extrêmement populaire auprès des jeunes. D'ailleurs, dans mon souvenir, à l'époque, ceux qui envisageaient Erasmus voulaient tous aller à Barcelone. Je crois que le film a eu vraiment un impact.
C'est un problème pour Barcelone.
C'est un vrai problème pour Barcelone. Et on retrouve donc à l'affiche de ce film
Des gens qui à l'époque sont très jeunes.
Voilà, exactement. Romain Duris, Judith Godrèche, Audrey Tautou, Cécile de France, Kelly Riley. Donc, ce sont 7 étudiants, 7 nationalités qui partagent un appartement à Barcelone. Et le titre, L'Auberge espagnole, rappelle cette idée des auberges espagnoles qui n'avaient pas de cuisine et où chacun amenait son plat et on le partage. Et bien là, c'est l'expérience européenne. Chacun arrive avec qui il est, le partage. On découvre qu'on a des différences, on découvre surtout qu'on a beaucoup de choses en commun. Et puis au fur et à mesure de cette cohabitation, et bien on devient solidaire. Donc je trouve que c'est une très belle analogie et un très beau symbole pour l'Europe. Il y a quelque chose même d'assez emblématique, c'est qu'au bout d'un moment, il y a le frère d'une colocataire, alors c'est l'anglais évidemment, qui vient et qui lui parle aborde chacun avec les clichés qu'il a sur toutes les nations. Et là, on voit le groupe qui se resserre et qui est ulcéré en fait de cette attitude. Voilà, ils ont découvert ce qu'était être européen. Ce film, moi, je trouve qu'il a pas pris une ride et qu'il nous dit encore aujourd'hui vraiment ce que concrètement on peut vivre en Europe. Et pour les jeunes qui vont aller voter d'ici quelques jours, souvenez-vous que c'était pas gagné en fait de pouvoir faire ça.
Et puis pour Éric Lapiche, l'aventure européenne se poursuit avec cette série qu'on peut voir, je crois que c'est sur Netflix, qui s'appelle Salade grecque, où là, des jeunes gens vont à Athènes. Et bien de mon côté, je voulais vous confier un texte de Laurent Godet, « Nous, l'Europe, le banquet des peuples », un texte publié en 2019 chez Actes Sud et qui a été adapté au théâtre par le metteur en scène Roland Auzet, un spectacle enthousiasmant que j'avais vu il y a 2 ans et je crois que j'en avais déjà parlé ici même, et qui a beaucoup beaucoup tourné. Il se jouait encore 7 semaines à Paris dans une version ukrainienne. « Le rêve européen a besoin de désir, il mourra s'il n'est plus qu'une liste sèche de législations, de normes et d'échanges commerciaux », écrit Laurent Godet. Sur scène, des comédiens crient dans toutes les langues ce désir, cette rage d'une autre Europe. Alors je vous propose d'écouter, non pas un extrait de la pièce, mais Laurent Godet lisant un passage de son livre lors d'un festival à Lausanne en 2022.
« Ce que nous partageons, c'est d'avoir traversé le feu, d'avoir été chacun bourreau et victime. Jeunesse bâillonnée et mains couvertes de sang. Ce que nous partageons, c'est l'humanisme inquiet. Nous savons ce que l'homme peut faire à l'homme. Nous connaissons l'abîme, nous avons été avalés par sa profondeur. Ce qui nous lie, c'est d'être un peuple angoissé qui sait l'ombre qui est en lui. L'Europe, c'est une géographie qui veut devenir philosophie. Un passé qui veut devenir boussole, un territoire de 500 millions d'habitants qui a décidé d'abolir la peine de mort, de défendre les libertés individuelles, de proclamer le droit d'aimer qui nous voulons, d'être souverains en nous-mêmes, libres de croire ou de ne pas croire. Nous sommes humanistes et cela doit s'entendre dans nos choix. Aucun Dieu unique en Europe, aucun panthéon devant lequel s'agenouiller. Le territoire est vaste et doit le rester. Nous avons construit un continent Babel, étrange et compliqué, qui ne tient que dans cet équilibre subtil entre indépendance et solidarité, liberté et fraternité.
Nous, l'Europe, le banquet des peuples de Laurent Godet est publié chez Actes Sud, une lecture vivifiante pour repenser notre oui au rêve européen.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Merci d'écouter Effervescence. Merci à vous. Nous continuons cette aventure, pas forcément l'aventure européenne, mais l'aventure d'Effervescence, avec mes trois chroniqueurs de la semaine. Il y a Françoise Morel qui est avec nous depuis Vannes, Guillaume Goubert et Éric Payet qui sont avec moi à Paris. Depuis le 5 avril, on peut découvrir sur Apple TV Sugar, une série policière avec Colin Farrell. Éric Payet, Farrell est le héros de cette série incarnant un policier tout droit sorti des années 50.
Exactement. Cette série, alors moi, il y a toujours quelque chose chez Apple TV, c'est que j'attends que tous les épisodes soient désormais en ligne pour les regarder. Et c'est une surprise absolument, moi, qui m'a beaucoup marqué. Cette série nous entraîne en effet dans la tradition de ces polars américains des années 50 où les détectives errent sur les collines de Los Angeles. Et là, Sugar, interprété magnifiquement par Colin Farrell, qui est d'une classe absolue dans
cette Sugar, série. C'est son nom.
C'est son nom. John Sugar, c'est un détective qui appartient à une organisation un peu mystérieuse et lui son truc c'est de retrouver les personnes disparues. Il y met tout son cœur et c'est vraiment ce qui l'anime et il part à la recherche de la fille et petite fille de producteurs américains parce que c'est une dynastie, les Shigel et John Sugar lui est un cinéphile absolu donc évidemment pour lui cette mission elle revêt une importance capitale et dans la mise en scène il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que il va en permanence projeter lui-même dans ses films. C'est-à-dire que toutes les actions sont entrecoupées d'extraits de films de l'époque jusqu'à se retrouver dans ces moments où il est en tension aussi sur la question de la violence, qui est quelque chose qui anime beaucoup ce personnage, à revoir les points de Robert Mitchum avec Love and Hate dans
La nuit du chasseur.
La nuit du chasseur. Voilà, ce trou, cette angoisse. Mais je pense qu'on va écouter l'abondance.
Exactement.
Encore une belle journée en Californie. Ici. Je suis quelqu'un de bien. Mais le bien et le mal ne sont qu'une question de point de vue. John Sugar. Je suis détective privé.
On a dit que votre travail se résumait à une seule chose. Retrouver les disparus.
Sa petite fille. Elle a disparu.
Sugar, je n'aime pas que tu sois sur cette affaire.
Et toi, mon pote, t'es qui ?
Vous étiez au bar parce que vous me suiviez, John Sugar.
J'ai besoin de vous.
Vous vous cachez derrière un masque.
Vous croyez ?
Vous avez des secrets.
Pas maintenant. J'arrêterai pas de la chercher. Elle est là, quelque part.
Eric, vous m'avez dit avant l'émission, coup de cœur absolu pour cette série. Alors pourquoi ? Enfin, la bande-annonce est magnifique.
La bande-annonce est magnifique et je crois que, voilà, on comprend déjà. Soit vous êtes transporté et vous dites, tiens, je vais peut-être retrouver un peu de la saveur de LA Confidential. Voilà, moi, c'est ce qui m'a emballé. Et puis, Colin Farrell est absolument remarquable. Il a vraiment une classe absolue. Donc, pour incarner quand même un personnage qui doit transporter ça. Et puis, j'ai trouvé surtout le scénario extrêmement astucieux, puisque, évidemment, c'est une enquête policière sur cette disparition. Et on comprend très vite que la question qui anime vraiment la série, c'est plutôt qui est John Sugar. Et en effet, il traîne quelque chose de mystérieux, il est trop bon, il est trop gentil, il aime trop l'humanité pour ne pas avoir été corrompu par cette ville. D'ailleurs, il y a une citation que je trouve magnifique à un moment dans la série où on dit « si la Terre se penchait de côté, tout ce qui est pourri tomberait à Los Angeles ». Je trouve que voilà, ça résume bien aussi ce qu'on veut nous raconter de cette ville. Et au fur et à mesure de la série, eh bien, on commence à comprendre qu'il y a autre chose qui se cache dans ce scénario, avec un twist à la fin assez extraordinaire. Il a beaucoup divisé la critique, ce twist. Je n'en dis rien, mais voilà, moi je trouve qu'il donne une cohérence absolue à cette série.
Finalement, c'est une série qui nous parle du cinéma, des États-Unis.
Des États-Unis, du cinéma. Et puis, je crois que c'est surtout le plaisir de se replonger aussi dans ces histoires de policières qu'on ne connaît plus aujourd'hui. On veut quelque chose de beaucoup plus saccadé, rebondissant. Là, on prend le temps et on installe le personnage avec sa complexité d'une personnalité, en effet, qui prend du temps à se dévoiler.
Une série, combien d'épisodes? Est-ce qu'il y aura une saison 2?
C'est 8 épisodes.
8 épisodes.
Et je guette frénétiquement chaque jour pour savoir si en effet le succès, je vais la regarder 6 fois au moins pour donner des crédits supplémentaires à cette série pour que Apple TV engage la seconde, parce que il y a clairement une invitation à faire une saison 2 à la fin de ces 8 épisodes.
Et puis il y a une bande originale avec des musiques extraordinaires. Je vous propose une petite pépite, je ne connaissais pas, une reprise de Sugar Sugar par Bob Marley and the Wailers. Sugar, Sugar, par Bob Marley and the Wailers, et la série Sugar, c'est à voir sur Apple TV. Alors, on va passer des plateformes au cinéma, changement total d'ambiance. Guillaume Goubert, vous êtes allé voir Marcello Mio, dernier film de Christophe Honoré, où Chiara Mastroianni se prend pour son père, l'immense Marcello Mastroianni.
Tout à fait. Alors, c'est un film très étonnant.
On écoute la bande-annonce, peut-être?
Oui, volontiers.
On écoute la bande-annonce.
C'est incroyable. Mais qui t'a fait ça? C'est pour des photos?
J'ai encore rêvé de mon père cette nuit.
Oui. Je n'ai plus pu
me réveiller. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père.
Il te manque, c'est tout. Sans moi, le
monde peut bien tourner. Mais Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça?
Ben, ça me rend heureuse.
Dis-toi qu'elle est comme une somnambule. Faut pas la réveiller brusquement.
Bonjour Nicole.
Vous connaissez Marcello?
C'est quoi ces conneries, gars?
Marcello. Nicole, c'est Marcello, attention.
On a été heureux ici?
Oui.
It's very nice, it's very nice.
Immagina la locandina. Marcello Mastroianni e Fabrice Lucchini nel nuovo film di Nicole Garcia.
Arrête, et puis enlève ça!
Voilà, Marcello Mio, Christophe Honoré et Guillaume Goubert, vous êtes parmi les spectateurs et vous avez cru à la performance de Chiara Mastroianni ?
Ah, totalement. C'est très, très impressionnant.
Donc, elle se prend pour son père ? C'est une lubie ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, en fait, l'histoire repose sur quelque chose qui est parfaitement réel. Donc, c'est que cette actrice, Chiara Mastroianni, qui a 52 ans, je crois, aujourd'hui, est la fille de Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve.
C'est pas rien.
C'est pas rien, voilà. Et le film, en fait, c'est ça le sujet du film. C'est qu'est-ce que c'est d'avoir une parenté pareille, quoi. Et soyons honnêtes, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on voit Chiara Mastroianni. On se dit, mon Dieu, quelle vie a-t-elle eue de ce fait-là, etc. Et Christophe Honoré a travaillé ce sujet avec énormément d'humour et de légèreté. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, dans une répétition de scène, un casting, il y a Nicole Garcia qui joue le rôle d'une réalisatrice, enfin, ce qu'elle est d'ailleurs, actrice et réalisatrice, qui, à la fin, dit non, mais c'était pas très bien, etc. Tu vois, enfin, bon. Ça me gêne de te dire ça, mais j'aurais voulu que tu le fasses plus Mastroianni que Deneuve. Et à ce moment-là, ça met intérieurement très en colère Chiara Mastroianni, qu'on la renvoie toujours à ces choses-là. Et le lendemain, elle se grime en Marcello Mastroianni. Et il se trouve, je trouve qu'elle ressemble beaucoup plus à son père qu'à sa mère. Et donc, c'est très fascinant, très troublant de voir cette jeune femme, très très jolie femme, qui est grimée comme son père, qui porte un chapeau comme son père dans les films de Federico Fellini. Et voilà, et ça se promène entre la France, l'Italie, entre le français et l'italien. Tout le monde joue plus ou moins son propre rôle, c'est-à-dire des personnes qui sont, à part un personnage secondaire que j'ai trouvé un peu d'un soldat anglais, j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait là, mais pour dire que c'est pas un film non plus absolument parfait.
Ce n'est pas un
chef-d'œuvre. Mais il y a oui, citation d'un ami Alzheimer. Commun. Ouais. C'est pas loin quand même. Il y a Lucchini qui joue son propre rôle, qui surjoue son propre rôle. Alors, Lucchini qui surjoue Lucchini, vous pouvez imaginer ce que c'est. Nicole Garcia, Catherine Deneuve, Melville Poupeau et Benjamin Biolay. C'est-à-dire plein de personnes qui ont... enfin, Lucchini, je crois que c'est plus récent, mais qui ont traversé la vie de Chiara Mastroianni. Voilà, et c'est bourré d'humour. Plein de citations parfois complètement enfin je veux dire faut moi je pense que j'en ai raté beaucoup, mais il y en a quelques-unes, j'ai vu à quoi ça faisait référence et forcément c'est ce genre de clin d'œil, ça fait plaisir. Évidemment, notamment la célébrissime scène où Marcello Mastroianni est dans la fontaine de Trévis et dans la Dolce Vita de Fellini avec Anita Ekberg et donc là et ben un soir habillée en Marcello elle rentre dans la fontaine de Trévis. Il y a deux policiers romains qui arrivent.
C'est moins glamour ?
Ah, c'est nettement moins glamour. Ah, que faille ! Etc. Enfin, je veux dire, les policiers qui veulent, on l'emmène en garde à vue et qui veulent le mettre dans la salle de garde à vue des hommes, puisqu'elle est habillée en homme. Bon, là, elle se dit non, quand même, j'y tiens pas. Alors, elle fait en sorte que le policier comprenne qu'elle en trouve son chemisier, pour tout dire, pour que le policier comprenne que c'est pas un homme et une femme, et le type dit non mais c'est pas possible, etc. Enfin voilà, c'est bourré de trucs comme ça.
C'est... Guillaume, la critique, les critiques ont eu la dent dure,
beaucoup
disant que c'était un entre-soi.
Oui, mais c'est vrai, mais soyons honnêtes, je veux dire, c'est un entre-soi qui nous intéresse, je veux dire, et là, au moins, c'est traité sur un mode d'humour.
C'est votre côté midinette, Guillaume.
Ah oui, complètement. Oui. C'est traité sur un mode d'humour vraiment. C'est avec des scènes incroyables. Il y a un moment, vous m'arrêtez quand je suis trop long. Chiara Mastroianni veut emmener sa mère retourner dans l'appartement où il vivait avec Marcello
à Paris.
À Paris. Avenue Georges Mandel. Et il sonne à la porte. Il dit « Bonjour, je suis Catherine Deneuve. J'aimerais bien revoir l'appartement dans lequel j'ai habité. » Il dit « Ben oui, bien sûr, montez, etc. » Et Catherine Deneuve dit « Oh, les gens sont vraiment gentils. » Et sa fille lui dit « Bah, ils sont gentils avec Catherine Deneuve. » Voilà, donc le film est bourré de trucs comme ça. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Et l'image est belle, etc. Donc moi, j'ai passé un moment assez enchanteur, je dois dire. Alors, j'entends la critique sur l'entre-soi. C'est un petit monde qui vit dans des beaux appartements, qui a beaucoup d'argent, tout ça. C'est vrai. Mais voilà, il y a une forme de rêverie qui m'a beaucoup touché.
Et là aussi, il y a une bande originale qui devrait faire fondre toutes les midinettes que nous sommes. On va écouter un morceau de Luigi Tenco, mais d'abord, vous nous faites la traduction.
Alors, la première phrase dit « Je suis tombé amoureux de toi parce que je n'avais rien à faire. »
Et voilà.
Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te, perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire. So più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, notte ti vengo a cercare.
Voilà, si vous voulez écouter Luigi Tenco, et bien vous allez voir Marcello Mio, c'est au cinéma actuellement.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Voilà, et maintenant on va prendre la direction du Maroc avec vous, Françoise Morel, avec une série documentaire disponible sur la plateforme d'Arte. Françoise Morel, vous avez vu Les couleurs du Maroc. C'est une série en plusieurs épisodes sur le Maroc et ça fait rêver.
Exactement, Stéphanie. C'est une série de 5 documentaires réalisés par Fanny Tondre et Jean-Bernard Andreau pour Arte. Alors, c'était en 2014, mais c'est tout à fait encore possible de les voir. 5 documentaires de 43 minutes chaque et absolument magnifiques et je rajouterais même enchanteurs. 5 documentaires qui chacun présente donc le Maroc à travers une couleur marquante. Alors, il y a le blanc, le rouge, le bleu, l'ocre et le vert. Il faut dire que le Maroc est vraiment une terre aux mille nuances au fil des saisons et au fil des heures. Ça n'offre jamais le même visage. C'est vraiment un éventail chromatique dominé par les 5 couleurs de chacun de ces épisodes. Chaque couleur véhicule un sens, une histoire, une culture. Elles agissent à la fois sur l'environnement et bien sûr, quand on regarde ces documentaires, sur notre imaginaire. Allez, je vous les explique, ces couleurs. Il y a d'abord le blanc, couleur sacrée. C'est la lumière du Maroc. Les maisons, la chaux, les cigognes, la laine fine des djellabas, c'est Casablanca, le vent, la lagune de Naïla ou encore les paysages du nerf du Sahara. Et puis il y a le rouge du Maroc, c'est la couleur des paysages de canyon, des casbahs, du désert de Merzouga, le safran, les pigments qui colorent les peaux, ce sont les tapis rouges des futurs mariés, le soleil du soir, ou aussi le symbole de la puissance et du feu. Et puis il y a l'ocre, la couleur de la roche, de la terre du sud, des falaises du Haut Atlas, c'est la couleur des dromadaires, c'est la couleur des murs de Marrakech et celle d'Agadir Ouzrou, un petit village fortifié du XVIe siècle. L'ocre, c'est vraiment la couleur éternelle en fait du Maroc. Il y a le vert, symbole de la nature et de la vie. Au Maroc, il y a le vert de la forêt d'Ifrane, forêt de cèdre, dont on imagine facilement les senteurs. C'est la couleur douce aussi des grandes palmeraies de henné, vert cultivé et produit par des femmes, celle de Tinzouline. C'est aussi la poterie murale dans le sud de la vallée du Drac. Et puis enfin, et c'est ma couleur préférée Stéphanie, il y a le bleu, celle de l'infini, celle qui protège du mauvais œil. Tous les bleus sont au Maroc, celui de la mer, de l'océan, celui des lacs, celui de Majorel, artiste peintre qui a orné sa maison et son jardin au cœur de Marrakech et qui a même donné son nom à ce bleu si singulier. Et puis il y a le bleu de Fès, le bleu des mosaïques, le bleu de Chef Chaouen. Alors Chef Chaouen, c'est un petit village surnommé la perle bleue du Maroc où toutes les maisons sont peintes en bleu et régulièrement par les femmes repeintes en bleu et tellement d'autres bleus au Maroc. Alors, bah, vous l'entendez, j'ai vraiment adoré cette collection de documentaires. Tout y est très beau. C'est vraiment une invitation au voyage, à l'émerveillement, comme cette émission effervescente, c'est aussi une expérience visuelle unique. Alors, je ne suis jamais allée au Maroc, mais je crève d'envie d'y aller.
On ira ensemble.
Volontiers, je peux vous assurer, Stéphanie, que vu depuis ma Bretagne, parfois un peu grise et pluvieuse, eh bien, ces images font un bien immense.
Voilà, et c'est à voir sur la plateforme d'Arte. Ouais. Guillaume Goubert, vous étiez, j'ai calculé, il y a 10 jours, à Bercy, pour applaudir une icône du rock et du blues, Eric Clapton. Il a quel âge ?
79 ans.
Et il tient encore la route ?
Et il tient très très bien la route. Il est. Bon, alors ses concerts ne sont pas extrêmement longs, hein, c'est pas Springsteen. C'est une heure et demie, une grosse heure et demie de concert. Il fait une partie du concert assis parce qu'il joue à la guitare acoustique. Voilà, mais c'est une légende, peut-être la plus grande légende de la guitare électrique rock. C'est vraiment un très très grand instrumentiste. Il chante bien, peut-être pas aussi génial chanteur que guitariste, mais il chante bien. Voilà, et il a repris la route là pour une série de concerts un peu partout. Il a fait quelques dates en France, à Paris et à Lyon. C'était un très beau concert. Quand on va voir des gens de cette génération-là, on a toujours un peu peur, ouais. Parce qu'on se dit, c'est peut-être la dernière fois, mais en même temps, est-ce que, comme il commence à être très vieux, est-ce que ça va être bien ? Ben oui, c'est toujours très bien. C'est toujours très bien. Et
il y a de la fragilité, on la sent ou...
Oui, non, pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça. Non, non, il est extrêmement calme sur scène. Il ouvre pratiquement pas la bouche. Dit bonjour, au revoir.
Et il a une guitare, vous m'avez dit.
Et alors, c'est un bon exemple de ça. C'est qu'il a une guitare, actuellement, il a une collection de guitares incroyable, mais ça, c'est connu. Mais là, il s'est fait faire une guitare aux couleurs de la Palestine. Parce qu'il est très, très engagé sur le soutien aux enfants à Gaza. C'est une des raisons de sa tournée. Donc, il a demandé. Il joue depuis toujours sur une Fender Stratocaster et il a demandé à Fender de lui faire une guitare aux couleurs de la Palestine. Et je suis sûr que Fender a dit ben oui, cher ami, cher monsieur, cher maître, pas de problème. Donc voilà, il a sa Stratocaster aux couleurs de la Palestine, mais il n'a pas dit un mot. Je veux dire, pour dire, il y a eu quelques images qui ont été projetées sur les écrans, mais qui sont plus des images un peu allégoriques que vraiment précises sur les camps de réfugiés, sur les bombardements, etc. Mais il n'a pas dit un mot pour dire, voilà, tel est mon engagement, etc. Il est très taciturne.
Vous vouliez revenir sur une des plus belles, des plus célèbres chansons d'Eric Clapton.
Oui, c'est une chanson qui s'appelle Tears in Heaven, qui est une chanson qu'il a écrite après la mort de son petit garçon qui avait 4 ans et qui était tombé d'une tour de New York. Et... Eric Clapton, avec un auteur qui a écrit quelques très très belles chansons, qui s'appelle Will Jennings, c'était en 1992, ils ont écrit cette chanson qui s'appelle Tears in Heaven, ça en traduit, ça veut dire des larmes au paradis. Et donc c'est une chanson dont les paroles sont vraiment très belles, très émouvantes. Il dit, est-ce que tu saurais mon nom si je te rencontrais au paradis? M'aiderais-tu à tenir debout si je te rencontrais au paradis? Il dit aussi, je ne peux pas rester au paradis, je dois être fort et continuer, car je sais que ma place n'est pas ici au paradis. Voilà, c'est une des plus belles chansons de deuil que je connaisse. Et ce qui a été très impressionnant pour moi dans ce concert, c'est que c'est une chanson qui est presque une berceuse, qu'il a généralement interprété juste à la guitare, très très peu de d'accompagnement. Et là, il l'a chanté avec un tempo, avec une batterie, avec une basse, et il a réussi à donner vraiment de l'animation à cette chanson, sans pour autant éclipser la tendresse douloureuse qui est dedans.
Alors on va l'écouter dans cette version qu'on trouve dans son dernier album, hein, qui s'appelle « To Save a Child ». Tears in Heaven.
I'm must be strong and carry on.
Petit temps calme dans cette émission en compagnie d'Eric Clapton et donc cet album To Save a Child avec Tears in Heaven. Vous savez tout maintenant.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Il y a des questions qui sont importantes hein, dans la vie. Moi, je me rappelle de Kirikou. Pourquoi la sorcière est méchante ? Parce qu'elle souffre. Mais là, vous nous posez une autre question, Eric Payet. Moment, pourquoi les méchants sont méchants ?
Alors, c'est une pièce de théâtre où vous entendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres questions, puisque c'est le principe même de ce texte. Cette pièce est jouée jusqu'au 19 juin, donc précipitez-vous à Paris, au Théâtre de la Scala. On la retrouvera plus tard, et notamment lors du Off à Avignon cet été. C'est une pièce du dramaturge Jean-Claude Grimbert, qui est écrivain, scénariste, dramaturge, qui a reçu une dizaine de Molières. C'est vraiment quelqu'un qui est reconnu. Sa pièce L'Atelier a été multi-récompensée. Il a obtenu aussi le César 2023 pour le film Amen de Costa Gavras. Voilà. Et son œuvre, elle est marquée évidemment par son traumatisme d'enfance, qui est que ses deux parents ont été raflés, son mari en camp de concentration. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment tout au long de son œuvre. Alors, cette pièce, Moment, c'était le titre original.
Moment, avec un O, hein, on
avec
prononce
un
bien.
O. Est un texte qui est paru à destination de la jeunesse, mais c'est bien plus que cela. C'est un texte qui en effet est extrêmement poétique et nous emmène. Alors là, dans cette pièce de théâtre, surtout, ce texte est interprété par deux immenses acteurs. C'est Hervé Pierre et son épouse Clotilde Mollet.
Ils sont pas tout à fait des inconnus pour vous.
Alors, ce sont pas des inconnus pour moi. Ça va peut-être expliquer aussi mon coup de cœur, mais j'essaie d'être assez neutre et objectif. Ils sont immenses. En effet, moi, je les avais dirigés l'un et l'autre. Dirigés, c'est un terme bien... Non, j'ai assisté à leur talent sur une série de formats courts que j'avais écrite pour Le Jour du Seigneur qui s'appelait Sacristie, qui est passée il y a quelques années. On a fait une cinquantaine d'épisodes ensemble. Et j'avais été émerveillé par le talent d'Hervé qui incarnait mon curé, qui était le Père Moreau. Et dès la saison 2 et 3, j'avais un personnage récurrent qui était une dame cathée, qui essayait de trouver sa place dans une paroisse. Voilà, vous voyez un peu les débats sur la place des femmes, qui était jouée par Clotilde Mollet, donc son épouse qui a accepté ce rôle. Mais évidemment, avant d'être les stars de Sacristie, Hervé Pierre, c'est quand même notamment une bonne dizaine d'années comme comédien à la Comédie Française.
Oui, c'est ça, hein.
Il a été d'ailleurs reconnu par ses pairs, élu meilleur acteur. Voilà. Il vient de quitter la Comédie Française. Et j'ai l'impression que dans cette nouvelle vie qui s'offre à lui, eh bien, il y a des projets où justement il retrouve sa femme, immense actrice. C'est leur fille d'ailleurs qui fait la mise en scène. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose d'une deuxième période qui s'ouvre pour eux, mais le talent est toujours au rendez-vous.
Maman.
Quoi encore ?
Pourquoi les méchants sont méchants ?
Parce que
quoi ?
Et s'ils n'étaient pas méchants ? On les appellerait pas comme ça, hein, maintenant dort.
Mais alors ça raconte quoi ?
Alors vous l'avez compris, Hervé Pierre joue Moment. qui est la mère d'un petit Ouistiti, son petit garçon chéri, qui est interprété par Clotilde Mollet. Alors je sais, sur une radio chrétienne, ça fait beaucoup de transgressions d'un seul coup, mais ça marche. Et ce petit garçon lui pose des questions sur le sens de la vie, de sa vie. Les discussions qui peuvent paraître candides révèlent leur quotidien, qui est fait de coupures d'électricité, de la faim, du racisme, d'une histoire familiale douloureuse qu'on comprendra être la Shoah, d'un père absent, extrêmement absent. Et les réponses de maman, portées par Hervé Pierre, trahissent ses propres fragilités, son désespoir, mais aussi un tempérament hors norme. Ils ont leur propre langage, donc maman, tous les mots sont un peu déformés, ce langage fait de mots écorchés. C'est aussi leur bulle, leur univers dans lequel ils partagent un amour infini, leur complicité, leur humour et leur peine. C'est une pièce qui parle de prendre soin de l'autre, de résilience et de courage. Voilà, c'est extrêmement drôle et émouvant et encore une fois magnifiquement interprété. Hervé Pierre a cette phrase, il dit c'est un théâtre pour les grands enfants qui aiment leur mère.
Un théâtre pour les grands enfants qui aiment leur mère, on devrait être nombreux alors à s'y précipiter. Ça se passe, vous l'avez dit, au théâtre de la Scala jusqu'à la...
Jusqu'au 19 juin et puis ensuite rendez-vous cet été au Festival Off d'Avignon.
Voilà. On a commencé en évoquant l'Europe, l'Europe des peuples, l'Europe des nations, l'Europe des régions. Et voilà, une région bien vivante, c'est la Bretagne avec vous, Françoise Morel. Vous nous avez apporté un magazine qui célèbre l'identité bretonne. Une identité très arrosée dans tous les sens du terme, c'est ça ?
Oui Stéphanie, je vous en parlerai en fin de chronique. Ce magazine, c'est le magazine breton. Je crois que c'est la première fois que je vous parle d'un magazine, mais celui-ci, il me tient à cœur. C'est un magazine de société qui met en avant des hommes et des femmes qui se retrouvent sur le devant de la scène dans des domaines aussi différents que la littérature, la politique, le cinéma, les médias ou encore l'économie, mais qui sont des témoins de l'étonnante vitalité de notre région d'aujourd'hui, la Bretagne d'aujourd'hui. Et surtout, ils témoignent du bouillonnement culturel et économique de la Bretagne. Alors, loin des clichés, ce magazine, qui s'appelle tout simplement Breton, s'intéresse à ce qui fait la spécificité de l'âme bretonne, ce qui rend la Bretagne si particulière. Des sujets sur la langue, l'identité, l'histoire, le regard décalé aussi d'artistes ou d'écrivains qui nous amènent à réfléchir à cette question fondamentale à laquelle on pense tout le temps. Quel sens y a-t-il à être breton aujourd'hui ? Eh bien, Breton s'intéresse aussi au territoire et dresse régulièrement le portrait d'une ville, soit au travers d'un angle particulier, par exemple la Trinité-sur-Mer est-elle trop parisienne ? Ou encore Brest est-elle la ville la plus intello de France ? Vous voyez, les questions sont fondamentales. Soit aussi dans son entité, on peut parler de Carnac, La Baule, Pontivy, Vitré, Ploermel. Parce que pour Breton, la Loire-Atlantique est dans la Bretagne, je précise. Et puis, Breton, c'est aussi la photographie. C'est un très beau magazine. La couverture de chaque numéro propose un portrait en noir et blanc. Le magazine fait une grande part au reportage photographique. Les articles varient entre des portraits courts sur une double page ou alors des entretiens beaucoup plus longs. Le magazine a été fondé en 2005. Le premier numéro est sorti le 5 juillet et mettait à l'honneur Christophe Miossec. Et puis, pour terminer, Stéphanie Breton publie régulièrement 4 hors-série par an sur le patrimoine historique et naturel de notre région. Et en effet, le dernier numéro de Breton, je
très
vous invite
arrosé
à lire, voilà, s'intitule, alors on ne parle pas de la pluie, mais on parle de ça, « Les Bretons sont-ils toujours les champions de l'alcool ?» Alors écoutez, c'est merveilleux parce qu'on dit qu'en effet, les Bretons seraient très portés sur la boisson. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Eh bien, chiffres et spécialistes de la question apportent à Breton une réponse plus nuancée. En fait, les Bretons seraient plutôt les champions de la fête. Voilà. Bon, ça peut aller avec...
Ça peut aller
voilà
avec.
Stéphanie pour ce magazine. Breton, c'est très sympa à lire et si vous hésitez pour une destination cet été entre Perros-Guirec, Rosport-Dun, Carnac-Cléden, j'ai pris tous les noms qui sonnaient bien de chez nous, Locronan, Saint-Égonec, enfin voilà, vous n'avez que l'embarras du choix en feuilletant ce magazine breton.
Et vous pourrez peut-être croiser Françoise et les autres journalistes de RCF en Bretagne. Et puis pas de Bretagne voilà. Sans musique, qu'est-ce qu'on écoute Françoise ? Je vous laisse prononcer.
Ah oui, alors on écoute un chant que j'aime beaucoup qui s'appelle « Écrasant nose », ça veut dire « au cœur de la nuit ». C'est un chant qui nous parle de liberté, vous voyez, ça tombe bien, on rejoint cette question de l'Europe. Et c'est interprété par la troupe Arvo Bragan.
Les alvalets nantis. sono franchi fionchi.
Et c'est sur cette terre breton que nous quittons cette émission toute européenne. Merci à tous ceux qui l'ont rendue possible. Je salue donc Françoise Morel, notre bretonne et européenne de service. Autre breton et européen de service, Éric Paget.
Et comme un peu parisien.
Et puis plutôt Grenoble, c'est ça, la montagne, les Alpes,
oui,
Guillaume
oui,
Goubert.
Oui, oui.
Enfin, il y a aussi de la montagne en Europe, c'est pas que la mer. Voilà, on se quitte. Merci bien sûr à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission et toutes les émissions précédentes. Je ne vous laisse pas partir sans vous glisser. Allez, deux citations. La première, Victor Hugo. « Et de l'union des libertés, dans la fraternité des peuples, naîtra la sympathie des âmes, germe de cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et que l'on appellera la paix de l'Europe. » Et puis autre citation, soufflée par Guillaume Goubert, elle est d'Umberto Eco, « L'Europe, c'est la traduction. » Bon week-end à tous.